bienvenue dans le journal radiophonique amplifié numéro 49 du jeudi 14 mars 2019. Pour retrouver votre journal avec l'information mixée, égalisée, montée et bien sûr amplifiée. Alors aujourd'hui, Marie, on va parler de l'international et du national. Au programme, il y a le Brexit, l'Algérie, les tests osseux sur des migrants, l'affaire Barbarin et DVG. On y va.
C'est parti, on commence donc par l'international avec une brève avec toi, Maxime, sur le Brexit.
Effectivement, on ne les compte plus désormais et c'est donc un énième revers pour la première ministre britannique Theresa May ce mardi 12 mars après le rejet par les députés de l'accord de Brexit qu'elle avait conclu avec l'Union européenne. Et de même, le mercredi 13 mars, lorsque plusieurs de ses ministres ont bravé la consigne du Parti conservateur pour voter un amendement excluant le non-deal, même après la date butoir fixée au 29 mars. Or, nous apprenons à l'instant, super génial pour ma brève, que les députés britanniques ont voté pour un report du Brexit au mois de juin, qui doit maintenant être validé par l'Union européenne. Où un refus risque-t-il de nous mener? Ça, j'en ai aucune idée. Mais en cas d'acceptation, nous aurons des élections pour les Britanniques au Parlement européen en mai, ce qui est un comble pour le pays qui a voté il y a déjà 3 ans pour sa sortie de l'Union européenne. Pourtant, la négociation, elle est terminée, a réaffirmé le négociateur en chef de l'Union européenne pour le Brexit, Michel Barnier, avant d'ajouter « Le Royaume-Uni doit nous dire ce qu'il veut pour notre relation future », allusion subtile ou non de l'Union européenne pour les Britanniques vis-à-vis de leur modèle voulu pour le Brexit.
Un point maintenant sur une situation tout aussi chaotique, celle du Venezuela. Alors rappelons les faits, Juan Guaido est président autoproclamé du pays depuis le mois dernier, mais le président en exercice, Nicolas Maduro, contesté par la population mais soutenu par la Chine et la Russie, dénonce une prise de pouvoir qu'il juge illégale, soutenue par les États-Unis et menace pour la souveraineté du Venezuela. Maduro a d'ailleurs refusé de faire rentrer les convois d'aide humanitaire en fermant temporairement la frontière avec le Brésil et la Colombie, d'où étaient acheminés les convois. Plus récemment, 21 des 23 États ont subi une panne d'électricité qui n'a fait que renforcer la précarité dans laquelle est plongée une population qui peine à trouver nourriture, soins médicaux et eau potable. Maduro dénonce un sabotage piloté par les États-Unis. Les experts de l'opposition expliquent le fait par une simple défaillance des infrastructures. Une enquête s'est ouverte hier contre Juan Guaido, accusé d'être impliqué dans un soi-disant sabotage du système électrique du Venezuela, un événement que Guaido a jugé digne d'un scénario hollywoodien. L'Algérie maintenant.
En effet, parce que l'élection présidentielle est reportée, Abdelaziz Bouteflika renonce à se représenter. Et c'est la première prise de parole du vieux symbole de la révolution nationale que... depuis des années. Et c'est aussi une des plus grandes manifestations qu'on a vues en Algérie depuis une vingtaine d'années.
Petit problème de micro, excusez-moi. Je disais donc l'élection présidentielle algérienne est reportée parce que Abdelaziz Bouteflika renonce à être candidat. Mais à la joie de cette victoire s'est succédé la méfiance et l'amertume. Parce que après l'une des plus grandes manifestations qu'a vu le pays depuis des vingtaines d'années, on a plutôt la sensation d'une gueule de bois. On dit que le pouvoir ou que le système semble avoir joué avec pour une fois la souplesse pour pouvoir maintenir l'ordre et que Bouteflika a été renouvelé pour un an. Le pouvoir propose une grande conférence pour préparer une nouvelle élection l'année prochaine, en gardant à sa tête des symboles de la révolution nationale. Le bras de fer continue entre l'État et la rue, et on se demande alors quel sera le prochain coup, qu'il soit de force ou d'État.
On continue donc avec ce qu'on pourrait appeler l'affaire Boeing, peut-être, Benoît ?
Tout à fait. La communauté internationale se ferme aux avions Boeing 737 MAX 8 et 9, à l'exception des États-Unis, dont le président a fait savoir qu'il soutiendrait jusqu'au bout son industrie aéronautique. Après la catastrophe aérienne qui a tué 157 personnes le 10 mars en Éthiopie, l'Europe a suspendu tous les vols de cet appareil. La liste des pays interdisant les vols de ce Boeing s'allonge chaque jour alors que les causes du crash ne sont pas encore connues. Les États-Unis, avec le soutien du Canada, se retrouvent donc isolés face à l'immense pression internationale et ont persisté dans leur refus de se rallier à l'interdiction du vol.
« Et pour finir l'international, une brève sur Macron en voyage en Afrique. En ce moment et depuis 3 jours, Emmanuel Macron est en voyage diplomatique en Afrique et entame aujourd'hui sa 3e et dernière escale, puisqu'après Djibouti et l'Éthiopie, c'est au Kenya qu'est arrivé hier soir un président français très attendu. Un des enjeux de ces visites devenues trop rares sur le continent africain, eh bien souligner l'importance stratégique de la région clé qu'est la Corne de l'Afrique et lutter contre l'influence croissante de la Chine dans la région. Mais Macron ne s'en tient pas aux symboles et aux belles paroles. À Djibouti d'abord, allié historique et stratégique de la France, le président visite la base française, la plus grande d'Afrique, et met en garde son homologue contre la tentative chinoise de multiplier les investissements pour réduire la souveraineté du pays. En Éthiopie ensuite, Macron célèbre la coopération et l'amitié et signe 2 accords majeurs. Le premier concerne l'aide pour la conservation et la restauration du patrimoine éthiopien. Le second est relatif à la défense et à la sécurité et prévoit notamment le renforcement de la composante navale des forces armées éthiopiennes. En bref, des objectifs que Macron a résumés lors d'un entretien avec le Premier ministre éthiopien. Nous voulons, je cite, « porter le renouvellement qui est le vôtre et prendre part à cette nouvelle page de l'histoire de l'Éthiopie ». Et au Kenya enfin, où un président français se rend pour la première fois depuis 1963, les négociations sont placées sous le signe des intérêts économiques. Des compagnies françaises vont en effet développer une ligne de train vers l'aéroport de Nairobi et Vinci sera chargé de construire un axe routier important. Macron a donc annoncé une série de contrats d'un montant de 3 milliards d'euros pour les entreprises françaises qui investiront au Kenya. Un programme chargé donc pour une visite aussi riche en symboles qu'en enjeux stratégiques, économiques et militaires. Et le mot de la fin, Grande America, un naufrage qui fait beaucoup parler de lui.
Oui, un incendie s'est déclaré à bord de ce navire italien le 10 mars dernier à 20h au large de la France et le bateau a coulé 2 jours plus tard. Le navire contenait 2200 tonnes de fuel qui pour l'instant n'ont pas tous été libérés dans l'océan. La nappe d'hydrocarbures est actuellement de plus de 10 km et touchera sans doute les côtes de la Charente-Maritime et de la Gironde d'ici dimanche ou lundi. Les départements sont donc maintenant en préalerte pollution. Des navires anti-pollution devraient être dépêchés sur place, mais rien n'est moins sûr avec une mer aussi agitée qu'elle l'est actuellement. Il faut préciser que le bateau transportait 365 conteneurs, dont 45 classés comme contenant des matières dangereuses. Tandis que Yannick Jadot en a profité pour critiquer le laxisme qui existe autour du transport maritime, notre ministre de la Transition écologique, François de Rugy, nous a rassuré « L'État va tout faire pour réduire l'impact de la pollution sur nos côtes ».
Passage maintenant au national et on commence avec le cardinal Barbarin.
Oui, alors le cardinal Philippe Barbarin, condamné à 6 mois de prison avec sursis pour ne pas avoir dénoncé les abus sexuels d'un prêtre, sera reçu lundi prochain en audience privée par le pape. Il y a une semaine, le prélat avait annoncé devant la presse qu'il irait au Vatican remettre sa démission. La condamnation du plus haut dignitaire catholique français poursuit une longue tradition de condamnations similaires en 2001 et en 2018. Le jugement reproche, entre autres, devant une défense dédouanant de toute volonté de cacher les faits à la justice, d'avoir fait le choix en toute conscience de ne rien dire aux autorités judiciaires afin de préserver l'institution à laquelle il appartient.
Retour maintenant sur une récente polémique qui a fait beaucoup parler. Le syndicat national des gynécologues obstétriciens, ou SYNGOF, a demandé à ses adhérents, afin, je cite, de faire entendre au ministère de la Santé ses revendications sur le fonds de garantie de la profession, de se tenir prêt à arrêter la pratique des IVG. Cette annonce, qui s'apparente à ce qu'on peut bien appeler un appel à une grève des IVG, a suscité de vives réactions. La ministre de la Santé a dénoncé des menaces inadmissibles et la prise en otage des femmes comme levier de négociation. Marlène Schiappa a évoqué un chantage inacceptable et une menace envers les droits des femmes. Et les ONG, elles, soulignent un délit d'entrave à l'IVG contraire à toute déontologie médicale. Bref, une décision qui interroge sur la vision du droit à l'IVG et sur l'utilité de l'usage de moyens de chantage aussi radicaux. Affaire à suivre donc. Puisqu'on parle de santé.
Oui, la loi santé. Donc la ministre de la Santé Agnès Buzyn a présenté hier son projet de loi santé en Conseil des ministres. Le texte contient entre autres la fin du numerus clausus limitant le nombre d'étudiants admis en deuxième année de médecine, la mise en place de labels hôpitaux de proximité qui prévoit la labellisation de 5 à 600 établissements recentrés sur la médecine générale et la gériatrie, mais sans chirurgie ni maternité. Et cette prochaine loi modifie d'autre part les règles d'autorisation des activités des soins et des équipements dans les urgences et crée aussi un statut unique de praticien hospitalier. Ces 4 derniers points, donc qui ne sont pas les seuls, sont pourtant ceux qui demeurent donc les principaux points de critique à ce jour.
Et on passe au billet d'ici avec toi, Maë.